Et c'est vrai qu'il nous arrive de vivre des moments sombres dans la vie. Dans le spot publicitaire, il était question d'argent. Mais on peut vivre toutes sortes de situations qui peuvent donner l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Et on se sent tombé dans le vide sans personne pour nous rattraper. Il peut s'agir de maladie, de deuil, il peut s'agir d'une séparation, d'un divorce, d'une trahison, d'une perte d'emploi, etc. Le pire, c'est quand on s'enfonce tellement profondément dans le péché qu'on se sent coulé sans personne pour nous rattraper. On se sent comme plongé dans une épaisse ténèbre, dans une obscurité noire. C'était le cas des Israélites à l'époque du prophète Ésaïe. Le contexte entourant notre texte aujourd'hui nous rappelle quelques vérités qu'il est nécessaire de garder à l'esprit dans ces temps de tumulte que nous pourrions être en train d'expérimenter aujourd'hui. Et nous allons lire le même texte qu'au début de la présidence que notre frère Jean-Pierre nous a lu. Mais je vais commencer un petit peu avant et puis sauter quelques versets. Nous commençons avec le chapitre 8, verset 23. Nous lirons le verset 9, chapitre 9, 1, et puis le verset 5 à 6. Donc, Ésaïe 8, 23, 9, 1, ensuite 9, 5 à 6. Et je lis au verset 23 du chapitre 8. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir, donnera de la gloire à la route de la mer, au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière, verset 1, sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Et puis le verset 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Jusque-là. Trois vérités que je nous propose de garder à l'esprit dans notre méditation d'aujourd'hui. Donc, la première, c'est que l'espérance est souvent plus éclatante dans les circonstances les plus sombres de la vie. Deuxièmement, la paix que Dieu nous offre n'élimine pas nécessairement le chaos actuel. Preuve en est, Jésus est venu et pourtant, il y a quand même la guerre. Mais il inonde nos âmes de ce dont nous avons besoin pour rester forts et inébranlables face aux tempêtes les plus difficiles de la vie. Et c'est le lot du croyant qui met sa confiance en Dieu. Troisièmement, et peut-être le plus important, le texte d'aujourd'hui nous assure qu'en dépit de la façon dont les choses se présentent, ou même quelle que soit la direction qu'elles semblent prendre, le bien arrive, le bon arrive. Si je dois le dire autrement, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lèvera. Et ce sont là les promesses que Dieu a faites à son peuple par la bouche du prophète Ésaïe, il y a près de 3000 ans déjà. Et il nous fait les mêmes promesses aujourd'hui encore. Et donc, le peuple d'Israël avait été conduit dans l'idolâtrie, dans le péché, par une série de mauvais rois. Et la situation religieuse, la situation morale du peuple s'était fortement dégradée. Et eux-mêmes n'avaient rien fait pour arranger les choses. Quand Ahaz, lui aussi un mauvais roi, arriva sur le trône de Juda, Il se trouva très rapidement confronté à la menace d'une attaque venant d'une coalition de pays du Nord. Donc Israël au Nord se met avec la Syrie, qui se met eux aussi avec les Assyriens pour venir attaquer le royaume de Juda qui se trouve au Sud. Pourtant, c'est Dieu qui avait suscité cette nation pour infliger une correction à son peuple, parce qu'il s'était détourné de lui. Et c'est pourquoi, par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu avait annoncé que des jours sombres allaient arriver. Ce que Dieu voulait, c'est que le peuple le reconnaisse comme saint. Comme il le dit au chapitre 8, verset 13, « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. » Et le récit d'Ésaïe 7 nous rapporte qu'en apprenant l'alliance du royaume du Nord avec la Syrie, le cœur d'Ahaz et celui du peuple fut ébranlé, comme les arbres de la forêt qui sont secoués par le vent, comme quand le sol semble se dérober sur nos pieds. Et vous savez quoi? Dieu, dans sa grande compassion, est quand même intervenu dans leur situation, avec un message d'espoir. Il répond à Akaz en disant « Place ta confiance en moi. » Et que si tu restes ferme dans ta foi, ou si tu ne tiens pas ferme dans ta foi, ben tu ne tiendras pas du tout. Alors pourquoi Dieu demande à Akaz de placer sa confiance en lui? Pourquoi lui demande-t-il de garder une foi ferme? En voici la réponse dans notre passage du jour. Chapitre 23. Non, chapitre 8, pardon, verset 23, et le verset 1 du chapitre 9, « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » Garde confiance en moi, parce que les ténèbres ne dureront pas toujours. Chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et donc, la raison pour laquelle Dieu demande à Akaz de placer sa confiance en lui et de garder une ferme foi, c'est parce qu'au milieu de toutes ces angoisses, au milieu de toutes ces obscurités, au milieu de ces épaisses ténèbres, la lumière resplendira. Au milieu de tout ce chaos, il y avait de l'espoir pour le peuple. L'espoir que la lumière viendra briller dans leur obscurité. L'espoir, vous savez, c'est attendre avec confiance. C'est ça la définition de l'espoir. Attendre avec confiance. Et donc, placer sa confiance en Dieu, c'est espérer voir la lumière resplendir sur nous. Pourquoi était-ce une bonne nouvelle? Parce que cette promesse s'est réalisée. Elle est devenue réalité. Et même s'il s'est écoulé 700 ans entre le moment où la promesse a été dite et le moment où elle a été réalisée, Dieu s'attendait à ce que le peuple soit confiant, motivé, courageux pour attendre son secours et pour avoir une foi ferme. Ces versets d'Ésaïe, chapitre 8, verset 23 et 9, verset 1, sont aussi cités dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, verset 15 et 16, au début du ministère de Jésus. Matthieu identifie Jésus à cette lumière. Il n'y a pas que lui. Jean aussi, dans son évangile au chapitre 1, versets 4 à 5, a également présenté Jésus comme étant cette lumière qui est venue. Et Jésus lui-même s'est présenté comme étant cette lumière. Il dit en Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire de la vie. » Ou de la lumière de la vie. Pourquoi ils sont importants? Parce que si nous sommes dans les ténèbres, Jésus est celui qui peut nous en libérer. Jésus est celui qui peut nous tendre la main lorsque nous sentons que le sol se dérobe. Il est celui qui est venu pour éclairer les ténèbres de nos vies. Il est cette espérance à laquelle nous pouvons nous accrocher. Peu importe ce que nous pouvons traverser, mettre notre confiance en Dieu pour notre délivrance, pour notre salut, visiblement c'est le meilleur plan que nous pouvons adopter. Parce que nos ténèbres seront remplacées par la lumière. Et c'est une bonne nouvelle. Mais il y a une chose dont nous devons être conscients. La paix que Dieu nous offre n'élimine pas nécessairement le chaos actuel. Mais il inonde nos cœurs, nos âmes, de ce dont nous avons besoin pour rester forts et inébranlables face aux tempêtes les plus difficiles de la vie. La question qui se pose, c'est de quoi avons-nous besoin pour rester forts et inébranlables face aux tempêtes de la vie? Dans le message d'Ésaïe, comme Ésaïe adresse au roi Achaz de la part de Dieu, il lui est proposé de demander un signe. Mais Achaz refuse de demander un signe. Et Dieu y donne quand même un signe au roi. Au chapitre 7, verset 14, Dieu dit que ce signe sera une jeune fille qui deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut littéralement dire Dieu avec nous. Et dans le contexte dans lequel Ésaïe vivait, on pouvait se demander, était-ce possible que Dieu soit avec eux? À cause des menaces auxquelles faisait face le peuple d'Israël, je pense que ce n'est pas l'impression qu'ils avaient. Et nous y compris, lorsque nous sommes dans nos difficultés, l'impression que nous avons, c'est que Dieu est loin de nous. Il n'est pas dans notre situation avec nous. Surtout parce que Dieu avait suscité un peuple pour juger, pour punir son peuple à cause de leur idolâtrie, à cause de leur péché. Comment Dieu pourrait-il alors être avec eux? La question c'est, est-ce que nous sommes conscients de la présence de Dieu lorsque nous traversons nos moments difficiles, nous aussi? Sommes-nous en mesure de dire, dans nos pires situations, que Dieu est avec nous? L'expérience nous a montré que la présence de Dieu n'est pas une affaire de ressenti, mais plutôt de connaissance, de confiance, que ce que Dieu dit est vrai. Quand il dit qu'il est avec nous, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est avec nous. Vraiment. Ce n'est pas qu'on va ressentir, ou alors il se pourrait que, ou si tu ne pèches, je ne serai plus là. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, je vous envoie, en Matthieu chapitre 28, allez, partout dans le monde, annoncez-moi, annoncez ma venue, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-les, et voici, je suis avec vous tous les jours. C'est ce qu'il dit, je suis avec vous. Je me rappelle quand j'étais petit et que mes parents nous disaient ces paroles-là. Je pense que ça m'a évité bien des déboires. Vous savez, mes parents achetaient un pot de l'écran de 5 kilos de lait, du lait en poudre. Bon, il fallait faire chauffer l'eau, faire bouillir l'eau pour ensuite mettre le lait dedans et puis délayer pour faire du lait. Mais nous, on aimait manger ça comme ça, quoi. On passait de temps en temps avec une cuillère. Et L'une des choses qui m'empêchait d'aller prendre une cuillère, moi, de temps en temps j'en prenais, hein, mais c'était de savoir que Dieu, il était là, quoi. Et il me regardait. Il me regardait faire. Et bien souvent, lorsque les tentations arrivent, lorsque des mauvaises choses ont envie de nous arriver ou que nous voudrions faire, penser que Dieu est là, en train de nous regarder, en train de nous voir, peut-être une motivation de ne pas faire ce que nous nous apprêtons à faire. Ésaïe réitère et développe cette promesse dans notre passage au sujet de cet enfant en disant au verset 5 que cet enfant serait aussi Dieu puissant, omniscient et toujours fidèle. Mais notons comment le verset reprend la première partie de cette promesse. Il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Littéralement, le texte dit, un enfant est enfanté pour nous. Un fils est donné pour nous. Pour nous. Mais en fait, le texte reprend deux fois la même idée, si vous remarquez bien. C'est deux fois la même chose qui est dite, mais de façon différente. Et l'hébreu utilise ce style littéraire un peu comme nous utilisons un point d'exclamation en français pour insister sur quelque chose. Comme on traduit en grec, en vérité, je vous le dis. Il veut seulement dire, je te le dis vraiment. C'est sûr. C'est certain. Le Messie viendra vers les hommes comme un petit enfant vulnérable. Et cet enfant serait un don que Dieu nous fait, un don d'autorité, de réconfort, de sagesse, de paix. Celui sur les épaules duquel le monde entier repose. Un pasteur disait dans un article, nous nous empressons de nous charger de tous les problèmes, tous les soucis, toutes les frustrations, pour les porter nous-mêmes. Alors que toute la gouvernance de ce travail devrait reposer sur les épaules du grand maître que nous servons. Et chacun de nous pouvons témoigner de ce fait dans nos vies. Là où Dieu nous demande de nous décharger, nous nous chargeons. Là où il nous demande de déposer à ses pieds, nous tenons fort et nous voulons porter nos affaires nous-mêmes. Ça me rappelle un livre que j'ai lu il y a, enfin, dans mon adolescence, où d'entrée, l'auteur écrit en imaginant une communauté de canards. Et dimanche après dimanche, du haut de sa chaire, le pasteur canard dit à ses fidèles, nous sommes des canards et nous pouvons voler. Et dimanche après dimanche, les canards arrivent en dandinant à l'église, oubliant qu'ils ont des ailes et qu'ils peuvent voler. Ne sommes-nous pas de ceux-là qui recevons les formations? Ça rentre par une oreille, ça sort. Déchargez-vous sur moi, nous dit le Seigneur. Déposez vos fardeaux à mes pieds, nous dit le Seigneur. Mais pourtant, nous y accrochons. Nous voulons y tenir fermement accrochés, alors que ça serait tellement plus simple de vivre une vie sans fardeau. Et nous fonctionnons comme ce bonhomme qui fait du stop près de la route, qui a son sac bien chargé sur son dos. Il monte sur le pick-up qui s'arrête pour lui, mais il a quand même son sac dans son dos, sur le pick-up. Dépose ton sac. Déchargeons-nous sur Dieu. C'est lui qui a la gouvernance pour porter sur ses épaules ces choses-là. Et lorsque le verset 5 parle de la gouvernance ou la domination qui repose sur les épaules du Christ, il nous dit qu'il en va de sa responsabilité de diriger et de soutenir le monde. Il sait ce qu'il fait. Il en est responsable. Y compris les entreprises dans lesquelles nous travaillons, y compris les hôpitaux dans lesquels nous nous soignons, y compris les familles que nous représentons et pour lesquelles nous prions, y compris les quartiers, les villes, le pays dans lequel nous sommes placés. Mais en dernier lieu, c'est lui qui est à l'initiative. C'est lui qui nous soutient et qui fait briller sa lumière en nous et à travers nous. Gardons en mémoire que lorsque nous avons l'impression que l'obscurité du monde voudrait nous envahir, le règne de Jésus s'étend dans notre monde à mesure qu'il s'étend en nous. C'est nous qui sommes chargés, responsables de diffuser cette lumière que le Seigneur fait briller sur nous. L'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 14 est là pour nous rappeler en nous disant « Nous sommes la lumière du monde ». Nous oublions parfois que nous sommes la lumière du monde et que nous devons orienter les autres vers Christ. Dans notre chapitre 9, verset 5, il nous est dit, et ça a été rappelé par notre frère Jean-Pierre, ça a été même chanté, les attributs qui ont été énoncés, quatre attributs, quatre titres, composés chacun de deux termes. Alors ça ne se voit pas dans la traduction « lui second » et c'est dommage, mais c'est des termes, des titres formés de couples. Et il nous dit qu'il sera le merveilleux conseiller, le Dieu puissant. Il sera Père éternel. Il sera Prince de la paix. Alors je m'en vais dire quelques mots sur chacun. Cet enfant promis est donc le merveilleux conseiller, capable d'accomplir des signes extraordinaires, disposant et transmettant une sagesse qui dépasse l'entendement, tel un nouveau Salomon. Et on a bien vu Jésus à l'œuvre pendant sa vie sur terre. Parce que c'est exactement ce qu'il a fait et ce qu'il a enseigné dans le sermon sur la montagne et encore tout au long de l'évangile selon Matthieu. Et en cela, il est effectivement le conseiller qui nous inspire, notre guide qui s'adresse à nos cœurs pour nous insuffler la sagesse dont nous avons besoin face aux situations que nous vivons. Cet enfant-là sera aussi appelé Dieu puissant. Alors il se peut là que le prophète dise la divinité de cet enfant qui naîtra de chair et de sang et qui possédera la puissance que seul Dieu peut détenir. En tout cas, il gouvernera le monde avec la puissance de Dieu. Parce qu'il n'est rien de moins que Dieu lui-même. Celui qui, avec Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint, a créé le ciel, la terre, la lune, le soleil, les étoiles, et qui les soutient par sa main puissante. Alors que sommes-nous, ou que sommes nos difficultés qui ne puisse pas aussi les porter. Oui, il sera ce Dieu puissant sur lequel nous pouvons nous reposer. Cet enfant sera aussi appelé Père éternel. Alors on a moins l'habitude d'entendre dire que Jésus est Père. Lui-même, dans la prière sacerdotale, dit-on, hein, il disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, dites, notre Père, qui êtes aux cieux. » Mais on a moins l'habitude d'entendre Jésus, ou d'entendre les autres appeler Jésus Père. Pas très commun. Pourtant, lorsqu'il s'adresse au paralytique, il lui dira, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Lorsqu'il s'adresse à à cette femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. Jésus est notre Père. On l'a chanté d'ailleurs. Un Père dont le règne sera sans fin. Et finalement, Ésaïe nous dit qu'il sera appelé Prince de la paix. Et donc Jésus est ce souverain qui sera en mesure d'instaurer une paix durable pendant son règne. Son règne sera caractérisé justement par cette paix que lui-même procure. Il avait parlé de cette paix à ses disciples en disant, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Et donc que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Ce que Jésus donne, c'est une paix complète et profonde, une paix qu'aucune autre personne ne pourra donner, parce qu'elle dépend de la constante relation que nous pouvons avoir avec lui. Et il faut que nous puissions avoir cette relation avec lui pour profiter de cette paix. Il est notre Emmanuel, le Dieu qui est et qui sera toujours avec nous. Et c'est donc cela, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous invite à célébrer en cette période de fête. La puissance, le réconfort, la sagesse, la fidélité, l'autorité, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de cela qu'il s'agit. Noël n'est pas seulement l'histoire d'un bébé installé dans une crèche. Noël, c'est l'histoire d'une mission de sauvetage, d'une main tendue, alors que nos sols se dérobent sous nos pieds. C'est l'histoire d'un Dieu qui descend de son ciel et qui vient sauver l'humanité de son péché. C'est aussi l'histoire d'un Dieu qui est venu nous rattraper, alors que nous chutions sans fin. Alors que nous serons en fête, peut-être plus tard, nous serons en train de réveillonner, gardons à l'esprit que quel que soit ce que nous serions en train de vivre ou expérimenter aujourd'hui, le jour se lèvera sur nos ténèbres. La lumière brillera dans notre obscurité. Parce que Jésus est venu, comme il avait été promis par le prophète Ésaïe. Que le nom du Seigneur soit béni.
Amen.
Je vous invite à